L'économie sociale étant pile un des objectifs d'Adyou, on ne pouvait pas rater cet événement, et surtout grâce à Françoise. L'avènement d'une monnaie locale. À Cadillac, autour d'une commerçante de la petite ville, s'organise un projet de monnayage. Je ne sais pas si ça se dit comme des faux monnayeurs, mais en vrai, une monnaie nouvelle réservée à l'économie locale, au cycle court et sans spéculation, un argent propre qui sentirait bon, destiné aux échanges locaux et favorisant les productions locales. L'argent, les sous, le fric, le flouze, les copecs, les queutes, le blé, la braise, la galette, le grisby, le jonc, l'oseille, les pépettes, le pèse, le picaillon, le pognon, les ronds, les thunes, les trèfles. On manque plus d'argent que de synonymes pour le désigner, comme quoi c'est un sujet important, incontournable. Surtout à l'époque des marasmes et des faillites, des paradis fiscaux et des détournements d'argent public, à une époque où l'économie est si artificielle et si complexe qu'on ne sait plus comment ça ne fonctionne pas. Sauf qu'on sait à qui ça profite et qu'ils ne sont pas bien nombreux. Les pauvres, par contre. Merci à Cécile pour l'aller. Merci à Cécile pour le retour. Merci aux participants pour leurs questions pertinentes. Et merci aux organisateurs pour leurs réponses pleines de possibles. Une heure ou plus ou moins, penchée sur le berceau d'une monnaie nouvelle.
Quand j'ai distribué mes papiers, je suis tombée sur un commerçant qui m'a dit « Ah, mais une monnaie à Cadillac, il y en a déjà eu une. » Et il y a un jeune homme...
Alors, je ne saurais pas vous le dire.
Il y a un jeune homme de Cadillac qui fait des fouilles un peu. Et puis, il aime bien la numismatique aussi, je crois. Non, numismatique, c'est ça?
Oui.
Et il a trouvé une pièce ronde, dans laquelle il y a écrit « Monnaie des commerçants de Cadillac ».
Exact.
Il y a donc une
Effectivement. Alors, je le connais bien, ce jeune, qui
c'est
s'appelle
le frère de
d'ailleurs
Pisaïolo.
Cyril. Oui,
voilà, c'est ça.
Et effectivement, je l'ai vu, la monnaie en question.
Voilà.
Et on se perdait en conjecture parce qu'effectivement, il a trouvé cette monnaie, mais il a fait des recherches. Mais bon...
Qu'est-ce qui est écrit dessus?
Monnaie des commerçants de Cadillac,
oui,
c'est
oui,
ça?
Oui, monnaie des commerçants de Cadillac. Alors,
et la valeur,
donc c'est pas une idée nouvelle alors les monnaies
Cadillac,
alternatives.
Voilà.
Alors il semblerait que,
ça n'est pas une dans le monde,
mais
ça
par
n'est
contre
pas
on n'a pas, il n'a pas, je crois, déterminé l'époque. Hein.
Il m'a dit qu'elle daterait de la guerre ou juste après la guerre.
Ah bon, parce qu'il s'y intéresse aussi.
On peut imaginer que juste après-guerre, des gens ont pensé qu'il y avait besoin de créer une monnaie locale pour représenter une économie, pour représenter une valeur.
Tout à fait.
À une époque de reconstruction, peut-être.
Ils se sont retrouvés dans la même que
dans la même problématique, dans le même contexte.
Vous pouvez dire merde, je mettrai bip, vous savez.
Dans la même merde, dans la même bordel. Excusez-nous, mesdames,
ce
sont des mots qui disent bien, qui sont bien français, qui disent ce qu'ils veulent dire. Donc... oui, effectivement.
Je suis Christine, je suis commerçante à Cadillac. Vous connaissez Françoise Citton.
Oh.
Madame Françoise Lenoble, qui est la présidente de l'association Agir pour le vivant de Villeneuve-sur-Lot. Ils sont passés les premiers pour faire la monnaie. Ils ont une monnaie complémentaire qu'ils ont créée, qui s'appelle l'abeille, qui est magnifique d'ailleurs. Et elle nous a gentiment invités chez elle pour nous expliquer un peu le fonctionnement, puisque nous, on avait envie de se lancer la starvature sur Cadillac. Donc, la monnaie complémentaire, la monnaie sociale, la monnaie alternative, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. On n'a rien inventé. Il paraît qu'il y en a plus de 5000 à travers le monde en ce moment. Et le but de ces monnaies complémentaires, c'est non pas de remplacer, mais de compléter la monnaie officielle quand elle est déficiente pour faire ce pourquoi la monnaie est faite. Alors, la monnaie, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est simplement un moyen d'échange. C'est pas, normalement, c'est pas censé être autre chose qu'un moyen d'échange. Il se trouve, donc ça sert à faire du commerce, et il se trouve que la monnaie, les monnaies officielles, dont bien sûr l'euro, sont des monnaies qui peuvent aussi être, on va dire, épargnées, qui peuvent faire des intérêts, qui peuvent donc intéresser justement certaines personnes. Donc, la monnaie, le problème des monnaies officielles, c'est que ce sont des monnaies qui, je dirais, ne sont pas étales, elles ne sont pas partout. Elles vont plutôt être collectées par certains organismes à travers la thésaurisation, les intérêts, les actionnaires et compagnie. Et du coup, un peu comme une vague, elle va être très rare de notre côté. En plus, il y a une volonté de raréfaction de la monnaie pour amplifier la compétition au niveau commercial, avec la mondialisation. Alors nous, ce qu'on veut faire, déjà d'abord aussi, est-ce que vous savez, parce que ça c'est important de le savoir pour comprendre pourquoi la monnaie est si intéressante. Vous savez, tout le monde pense que la monnaie est adossée à l'étalon or depuis pas mal de temps. Or en fait, depuis après la Première Guerre mondiale, c'est déjà plus le cas. Elle est complètement sortie de cet adossement étalon or. Et en plus, la monnaie n'est pas, c'est pas l'État qui crée la monnaie. Il a cédé son pouvoir de création monétaire, je crois en 1973, c'était M. Giscard d'Estaing, aux banques privées. Donc on peut presque dire que l'euro, c'est presque une monnaie privée, quoi. On pourrait presque dire ça. Donc à partir de là, c'est une marchandise. La monnaie qui doit être un moyen d'échange est devenue une marchandise. Donc ce que nous, on se propose de faire... Puisque c'est possible, c'est légal, c'est pas toujours bien accepté mais par l'État, mais bon, on a le droit. Ce qu'on se propose de faire, c'est une monnaie locale, sur Cadillac, qui permet uniquement le commerce, qui ne peut pas être spéculée, on ne peut pas la placer en banque, on ne peut rien faire d'autre que acheter ou vendre. Voilà. Et c'est une monnaie, donc... qui a aussi la particularité d'être, on appelle ça fondante, c'est-à-dire qu'au bout de quelques mois, elle perd un peu de sa valeur, il faut acheter un timbre pour la réactualiser, d'autres personnes vont changer complètement la monnaie, la détruire et en mettre une autre, ça dépend du choix qu'on fait.
Juste une petite question, quand vous parlez de monnaie locale cadillacaise, elle, ce sera uniquement la Bastille, enfin la commune ou... Ou le Cadillacais.
Alors, ça sera l'association qui décidera, déjà, parce que là, on essaie de créer une association pour pouvoir mettre cette monnaie en place. Aujourd'hui, c'est une réunion pour essayer de créer l'association, pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour participer à l'aventure. Et après, l'association décidera. En principe, c'est... qu'est-ce que vous appelez le Cadillacais ? Ça va être les commerçants de Cadillac,
oui,
les
thérapeutes
de Cadillac, les artisans de Cadillac,
oui,
et le chaland cadillacais.
Ça ne peut pas se concevoir dans une région un peu plus large, le Sud-Gironde par exemple ?
Alors, ce n'est pas que ça ne peut pas, ça peut même être régional une monnaie, mais il faut qu'on soit assez bon pour le faire. Et honnêtement, moi je ne peux pas. Et si on a un banquier un jour, un expert en banque un jour ou en finance qui rejoindra l'association, pourquoi pas ? Mais nous, il vaut mieux qu'on commence en faisant ce qu'on sait faire.
Est-ce qu'il ne faut pas un seuil critique, un certain nombre de participants pour que cette monnaie puisse tourner ?
Absolument.
Si on fait un 3 ou 4, ça ne peut pas marcher.
Ça serait ridicule si on se retrouve à deux pour à vouloir cette monnaie, quoi. Cette monnaie, moi, je pense qu'elle existera si on est assez nombreux, un, pour la mettre en place, deux, pour l'accepter. C'est-à-dire s'il y a assez de personnes qui signent la charte.
Donc il ne faut pas trop fermer géographiquement, alors.
Non, mais il faut pouvoir le assurer après. Hein. Plus il y a de la zone, j'appelle ça la zone de chalandise, mais c'est pas le terme exact, mais plus la zone concernée par cette monnaie est grande, plus il faut de gens dans l'association.
Avant toute chose, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fonctionnement exact ? Comment, ce que c'est ? Voilà. Vous alliez peut-être y venir, je vais peut-être devancer votre propos.
J'ai repéré moi deux façons de présenter cette monnaie, le nom générique c'est UCR, unité de change, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bon, la première façon c'est celle de Villeneuve-sur-Lot qui est d'acheter la monnaie, et elle s'adosse à l'euro, c'est-à-dire qu'un euro vaut une unité de cette monnaie. Donc vous achetez cette monnaie avec des euros. Alors après, l'association décide si elle veut faire une remise de 5% ou pour 3 mois ou pour toujours au consommateur qui va acheter. Ça c'est après, ça se fait pas, ça se décide
donc,
pas comme ça.
Donc on ne perd pas au change. Un euro égale un,
voilà.
On ne sait pas pour l'instant.
Voilà, une unité. On lui trouvera un nom après. Et j'ai vu que l'autre façon pouvait être aussi, l'occitan, c'est ça, c'est le commerçant qui, sous forme, par exemple, s'il fait 10 ou 20% de réduction, il va les donner sous forme de cette monnaie. Et les gens, après, pourront utiliser cette monnaie pour faire leurs courses auprès des autres commerçants qui auront signé la charte.
C'est comme un avoir étendu, quoi.
Voilà. Ça, par contre, c'est plus un échange contre des euros. C'est carrément une monnaie, elle est presque ex nihilo, finalement, comme la monnaie scripturale mondiale actuelle.
D'accord.
Donc, il y a deux façons. Nous, on pense qu'on va prendre la façon Villeneuve-sur-Lot, qui est quand même plus, je pense, elle nous semble plus intéressante. C'est-à-dire acheter la monnaie carrément.
On arrive chez un commerçant.
On ne va pas battre monnaie, on va acheter la monnaie.
On arrive chez un commerçant.
Voilà.
On décide d'acheter de la monnaie.
Non, c'est
alors
l'association.
Comment ça se passe?
L'association va être chargée de créer la monnaie, c'est-à-dire y compris physiquement. Ensuite, elle va être chargée de faire le tour de tous les professionnels pour voir ceux qui ont envie d'adhérer. Ensuite, il va falloir faire de la prospection, si je puis dire, pour chercher des gens clients, cette fois, qui vont accepter d'en acheter. Et ça se passe de la façon suivante. Le client accepte donc d'acheter cette monnaie. Il a sa monnaie en porte-monnaie. Il va chez le professionnel qui appartient à une liste que l'on remet au client. Le professionnel accepte d'être payé en tout ou en partie par cette monnaie. Il peut très bien aussi prendre 80% en euros, 20% dans cette monnaie.
Les clients qui l'achèteront. Donc on l'achète à l'assaut.
On l'achète à l'assaut.
Et ensuite, elle est valable chez les commerçants qui sont
qui
ont adhéré à la charte.
Qui ont adhéré. Voilà. Et le commerçant ayant reçu une certaine quantité de cette monnaie, s'il en a suffisamment pour vivre lui-même, parce qu'évidemment, un commerçant, je ne sais pas, le boucher, s'il mange du pain, il ne va pas aller acheter son pain à Intermarché. Dans ce cas, il va faire lui-même l'effort d'aller le chercher chez le boulanger qui a signé la charte aussi. Et la partie, donc, il va utiliser cette monnaie aussi. Et finalement, il sera client à un moment donné, ce commerçant.
Oui.
Il sera client des autres commerçants.
Oui.
Et ce qu'il aura en trop, s'il a vraiment trop de cette monnaie, comme il faut bien payer la TVA, les charges et tout, l'association lui rééchange cette monnaie contre des euros. Ce qui fait que le commerçant ne se retrouvera pas piégé avec une monnaie de singe, il aura une monnaie, une véritable valeur, quoi.
Et le client lambda qui n'est pas commerçant,
achète sa monnaie,
lui prend le risque.
3 mois, 6 mois, 1 an, on ne sait pas quel temps on va mettre pour l'écouler. Bon, je ne sais pas, au début, ils vont peut-être acheter que 40, 50 euros. 6 mois pour 50 euros, ça va vite. Donc, il ne risquera pas trop de l'avoir sur le dos. S'il a dépassé le délai, il rachète un petit timbre, il peut continuer. Mais par contre, le client ne pourra pas rééchanger la monnaie.
Il ne peut pas revenir voir l'association pour récupérer. Pourquoi il n'a pas le droit aux mêmes garanties que le commerçant?
Peut-être que l'asso peut décider, mais normalement, chez vous, le client peut rééchanger?
Non.
Ah, il me semblait que... Moi,
donc cette monnaie n'est valable que, n'est valable que 6 mois pour le client.
Elle n'est pas valable que 6 mois. Au bout de 6 mois, il faut acheter un timbre.
Elle se dévalue.
Elle perd un peu de sa valeur. On appelle ça le démurrage.
Oui, mais ça, moi, en tant que non-commerçant et a priori méfiant vis-à-vis des commerçants, je trouve qu'il y a une ségrégation qui ne me plaît pas du tout.
Que le client ne puisse pas...
Le commerçant soit dragué d'une certaine manière en disant c'est pour vous, c'est sûr, il n'y a aucun risque. Vous faites ça parce que vous voulez un maximum de commerçants, c'est logique.
Oui,
d'accord,
oui.
Mais pourquoi ne pas prendre le risque de faire la même chose entre les gens?
Ça, c'est quelque chose qui peut se discuter au sein de l'association, c'est sûr. Bon, peut-être qu'effectivement... peut-être que Françoise nous expliquera pourquoi le client, il vaut mieux qu'il...
Peut-être que tu peux le faire maintenant.
Oui. Je voulais revenir un petit peu au début. On a très bien présenté, Christine expliquait qu'il y avait 5000 monnaies dans le monde, mais en fait ce ne sont pas les 5000 monnaies ne sont pas des monnaies similaires à celles qu'on a installées, implantées sur le Villeneuvois, en ce sens que dans les 5000 monnaies, tous les économistes comme Bernard Guettard, son livre est vraiment super à lire, hein, c'est un peu la bible des monnaies locales et régionales à voir, à lire. Et, dans les 5000 sont comptés les selles, donc des systèmes d'échange où il n'y a pas de monnaie qui circule, c'est quand même autre chose. Sont comptés parce que dans les selles, vous ne pouvez pas avoir de commerçants. Hein, c'est très différent de la monnaie telle qu'on l'a créée.
Sont comptés également des systèmes d'échange, comme des systèmes comme au Japon. Alors je peux expliquer le cas d'un système au Japon qui s'est mis en place, parce qu'au Japon ils sont en train d'expérimenter 400 systèmes différents. Ils sont très en avance sur nous, on peut dire. Hein. Donc certains avec des billets comme on l'a fait, mais d'autres où il n'y a pas de billets qui circulent. Par exemple, il y a un système qu'ils ont mis en place où, imaginons que Monsieur X, ici, qui a 30 ans, 40 ans, a ses parents très âgés à Lille, et puis ben, il n'est pas très riche, donc il ne peut pas payer quelqu'un, ses parents ne sont pas riches, et il ne sait pas comment faire pour que quelqu'un vienne aider ses parents à Lille. Par contre, lui, il peut aider les parents de quelqu'un qui est à Strasbourg, à Cadillac. Hein? Donc, il va aller aider quelqu'un, il va donc avoir un crédit en temps, en heure, et avec ça, il peut avoir quelqu'un à Lille qui va aller aider ses parents. Vous voyez, c'est des systèmes qui se sont mis en place au Japon, qu'on ne connaît pas encore en France. Hein? Je sais qu'il y a une jeune à Paris qui vraiment veut démarrer quelque chose comme ça, mais tout est à construire, hein? Et elle sera probablement en rencontre en Ardèche. Donc vous voyez, il y a des systèmes très très différents d'essais, très différents de ce qu'on a mis en place dans les 5000.
Je pense à ce système qui existe, on ne peut plus en parler aujourd'hui puisque toutes les monnaies des pays, mais je pense à la monnaie monégasque par exemple, et je parle du temps, au temps du franc, qui était valable effectivement uniquement dans les frontières de la principauté et qui n'était pas à l'extérieur. Et qui correspondait effectivement, je ne sais plus, c'était un... Mais je crois que ça portait aussi quand même le nom de franc, je ne sais plus. Enfin, c'était une monnaie monégasque. Aujourd'hui, évidemment, monnaie correspond à l'euro, hein, puisqu'on est tous sous l'euro. Mais je sais que ce n'était valable que là-bas. Et moi, j'habitais à l'époque donc la Côte d'Azur, et c'est vrai que quelquefois, on voyait cette monnaie qui circulait, bon, que certains commerçants à Nice ou à Cannes ou ailleurs, vous rendaient... Certains l'acceptaient, d'autres ne l'acceptaient pas, bien évidemment, en disant, mais ce sont c'est une monnaie monégasque. Alors, je ne m'étais jamais véritablement penché sur le problème. J'étais ado à l'époque. Hein, donc, mais c'est vrai que c'était...
Donc, dans les 5000, vous voyez, c'est quand même pas 5000 systèmes
tels que celui
de
Villeneuve
sur Lot, on va dire.
C'est plusieurs façons d'échanger, c'est sûr.
Si on prend aussi Pézenas, c'est assez intéressant à aborder. Pézenas, parce que ça vient de...
C'est le fameux occitan dont je parlais tout à l'heure.
Oui, ça vient de... C'est sous l'impulsion de commerçants. En fait, c'est quelqu'un qui voudrait, pour redynamiser les commerçants, faire en sorte que les commerçants, effectivement, créditent leurs clients de bons. Et donc, les clients seront obligés d'utiliser ces bons chez les commerçants adhérents au réseau. Alors ça, c'est encore quelque chose de très différent par rapport à ce que nous avons mis en place. Parce que si vous voulez, là, le consommateur, l'acheteur, bon, mais il n'a rien à faire, je dirais. Hein, il a juste à recevoir des bons, aller les utiliser. Mais nous, à travers ce qu'on a mis en place, on vise, on va dire, d'autres objectifs. C'est-à-dire que ce qu'on voudrait, nous, ce que l'on cherche, c'est que aussi bien les consommateurs que les partenaires, les entreprises, que tout le monde, on va dire, joue un certain jeu, enfin, entre dans un... et certains objectifs, c'est-à-dire de redynamiser, certes, le commerce local, mais tisser du lien, limiter les transports, et avec des objectifs qui sont dans notre charte et surtout dans les principes directeurs qu'on a élaborés, où on vise qu'à terme, les entreprises aillent vers zéro pollution, zéro déchet. Donc il y a tout un engagement, aussi bien de la part des entreprises que des consommateurs. Et nous, on demande aux consommateurs d'adhérer à l'association. Là-bas, c'est des clients, comme quand vous allez dans un magasin, vous avez une réduction, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer à quoi que ce soit. Voyez. Donc c'est différent. Nous, on cherche à créer un mouvement où les gens se responsabilisent et se donnent des objectifs d'améliorer, aller vers un... Bon, on appelle ça développement durable, moi j'aime pas trop ça.
Non.
Je préfère un développement soutenable ou une sobriété heureuse. Voilà. D'aller vers quelque chose de... un monde qui soit vivable.
Une sobriété heureuse, c'est-à-dire je pourrais aller dans votre magasin, à Cadillac, votre magasin bio, vous proposer d'acheter quelque chose, vous me diriez, non, vous n'avez pas besoin, n'achetez pas.
Est-ce qu'on pourra en arriver là? Un magasin bio, ce n'est pas un supermarché bio, on a moins de gamme.
En ce sens que vous voulez, à Pincenage, je ne sais pas comment ils vont faire, mais je n'ai pas ouï dire qu'ils allaient, par exemple, que les commerçants auraient une charte à respecter, des principes directeurs, vous voyez ce que je veux dire. Nous, on a décidé qu'il y a peut-être des commerçants, on ne les prendra pas. On préfère favoriser. On préfère favoriser les commerçants qui produisent localement ou qui achètent localement.
Ouais.
Par exemple, on a un boulanger qui n'est pas bio, mais qui vient d'y rentrer. On a des boulangers bio, hein. Mais on a aussi un boulanger qui n'est pas bio, mais qui achète sa farine localement. La farine ne fait pas des milliers de kilomètres. Elle est moulue dans le Lot-et-Garonne. Vous voyez, il y a toute une démarche qu'on cherche à mettre en place de façon à aller vers. Vous l'avez bien compris, quoi. Parce qu'en fait, tous les gens qui ont mis en place cette monnaie, dont je fais partie, ce sont des gens qui sont dans tous ces réseaux, et on va dire dans l'écologie, je dirais l'écologie que j'appelle moi holistique, enfin simplement l'environnement, mais pour certains depuis quelques années, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans. Donc on a une vision, on va dire, assez globale de l'écologie, que ce soit l'environnement, la santé, l'éducation, l'économie. Ça fait longtemps qu'on a réfléchi à l'économie pour certains, qu'on a changé de banque, etc.
Êtes-vous commerçante aussi?
Ah non, moi j'étais tout simplement dans l'enseignement.
D'accord, ouais.
Voilà. Donc vous voyez, c'est les objectifs qu'on a, c'est, je ne sais pas si vous comprenez les objectifs qu'on a, de travail. Nous, on veut faire un certain travail avec aussi bien les consommateurs, les clients, que les entreprises. Alors après, le rayon, alors nous, évidemment, on a démarré dans Villeneuve, parce que on connaît tout le monde dans Villeneuve. On connaît et on est connu, parce qu'on est dans les réseaux depuis longtemps. Donc ça a été assez facile pour nous. Mais par exemple, on a déjà des entreprises qui sont situées à 20-25 km de Villeneuve. Vous voyez ? Presque.
Ouais, vous étendez le réseau.
Oui, d'accord. On a un producteur qui est à 20 km. On a celle qui fabrique les savons bio. Elle est à 15 km de Villeneuve. On a la Biocoop de Montéral qui est à 25 km. On en a une autre qui va fabriquer des tomes de brebis. Elle est à 15 km. Vous voyez, ce n'est pas que Villeneuve, mais parce que ça s'est trouvé comme ça aussi. Ce sont des gens qu'on connaît. Alors, pour revenir aussi à... Ah oui, alors, achat. Alors, en quelque sorte, nous, on a fabriqué la monnaie, je vais vous la montrer.
Ah, oui.
Et les consommateurs, donc, ce sont les consommateurs qui achètent la monnaie.
On a bien compris.
Ensuite, ils vont les utiliser auprès des commerçants, des thérapeutes. On a la chance d'avoir vraiment un réseau, nous, maintenant, très, très varié. On a une trentaine d'entreprises. Et on peut se nourrir, on peut lire, puisqu'on a une libraire, on peut se soigner, puisqu'on a une homéopathe, une naturopathe, un chiropracteur, bientôt une ostéopathe. On peut aller chez la couturière, enfin, il y a une photographe, infographiste, c'est déjà très varié, vous voyez, pour être début. Et au début, effectivement, on avait pensé, nous, quand on était à titre très expérimental pendant l'été 2009, quand les gens achetaient 40 abeilles, on leur faisait payer que 38. Puis après, parce qu'on avait lu tous les documents de Philippe de Ruder, étudié tout ça, bon, après on s'est dit, non, ça va pas ça, il faut qu'on fasse 40-40. Parce qu'il faut que vous ayez toujours un fonds de garantie qui soit équivalent à la somme de monnaie qui circule. Parce que les entreprises, si elles ont trop de monnaie locale, peuvent demander la reconversion de leur monnaie locale en euros.
C'est ce que disait.
Voilà. Il faut avoir les euros pour donner.
Ah oui.
Et donc, il faut avoir les euros. Alors, nous, on leur demande de laisser une commission de 2% quand elles reconvertissent leur monnaie locale en euros. Ah. Parce que l'objectif, c'est que même les commerçants utilisent le plus possible de monnaie locale chez d'autres commerçants, chez d'autres entreprises. Donc on est revenu on fait des enveloppes actuellement de 50 abeilles, 50 euros. Un de nos objectifs, c'est que dans l'avenir, pour les personnes qui sont le plus en difficulté, qui sont au RSA, au RMI, ou tous ces trucs en R, là, on puisse effectivement leur dire, voilà, 50 abeilles, mais vous ne payez que 45. Mais ça, c'est pas pour tout de suite.
Ça va vouloir dire que certains doivent payer 55 pour 50, non ?
On va étudier tout ça.
Enfin,
voilà, effectivement, c'est un de nos objectifs, tout à fait. Mais on est en train de l'implanter, donc Vous savez, il faut être très prudent parce que ça, ça bouscule beaucoup, beaucoup les mentalités. Parce que, comme vous l'avez dit, mais quel est l'intérêt du consommateur ? On commence à comprendre l'intérêt du commerçant. Mais quel est l'intérêt du consommateur ? Eh bien, l'intérêt du consommateur, il n'est pas à court terme, sauf si c'est un consommateur qui se dit qu'à travers ça, il comprend qu'il affiche son engagement.
Oui, c'est un acte politique aussi.
Voilà, c'est un engagement. Mais pour des consommateurs qui n'ont pas encore trop réfléchi à un engagement finalement politique, quoi qu'on en dise, hein, la politique, ça, là on va mettre aujourd'hui, on va mettre un sens noble au mot politique ici, dans cette salle. Mais à moyen terme, il faut faire comprendre aux consommateurs qu'à moyen et à long terme, ça veut dire que si des commerçants de Cadillac ne ferment pas boutique, ils sont gagnants. Au lieu d'être obligés, quand ils seront vieux, qu'ils ne pourront plus trop marcher, d'aller faire, de prendre la voiture tout le temps pour aller chercher une salade, trois radis, un morceau de pain, ils auront toujours les commerçants chez eux. En plus, quand on va chez un commerçant, ça crée du lien, on peut discuter.
Ça crée de l'emploi.
Vous ne pouvez pas discuter quand vous allez en grande surface, etc. Vous voyez, tout ça, c'est, c'est à moyen terme et à long terme que c'est surtout gagnant pour le consommateur. Quoique, court et moyen terme, il peut être aussi gagnant si ce sont des consommateurs qui finalement axent leurs achats plus sur la qualité que sur la quantité. Parce que comme les réseaux, comme je vous l'ai dit, on cherche à favoriser les gens qui font la qualité, dans les producteurs, dans les entreprises. Donc finalement, il y a quand même, il y a un intérêt. Et autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous fonctionnez en monnaie locale, vous savez aussi où va votre argent. À qui va votre argent? Et ça, c'est important à dire aux consommateurs, parce que vous voyez, nous, les premiers mois où on fonctionnait en monnaie locale, on le savait, mais on n'avait pas compris que ça, c'était important à dire. Parce que beaucoup de gens, maintenant, en ont assez de leur banque, en banque, ils en ont assez, mais ils ne changent pas de banque, pour autant. Non. Ils en ont assez de ceci, mais ils continuent quand même à y aller.
On a assez de tout, mais on ne fait rien. Donc on est pris d'une force d'inertie.
Là, on sait où va l'argent. On sait qu'obligatoirement, si j'achète en monnaie locale chez Christine, Christine sera obligée d'utiliser sa monnaie locale chez d'autres partenaires à qui j'ai confiance. Puisque tous, on respecte une charte et des principes directeurs. Vous voyez ? Donc ça, c'est aussi un point important.
Les 2% de garantie donc, que vous prélevez suffisent à. Sont équivalents à la monnaie qui est frappée.
C'est aussi pour les frais de
gestion.
Non,
mais
ce qu'il faut.
Qui correspond à ce que vous avez dit.
Les 2%, c'est quand on leur demande une commission, c'est pour les obliger eux aussi, si vous voulez, aussi à utiliser la monnaie locale. Et c'est parce que. Il faut aussi qu'on alimente un certain fonds qui est très léger, qui sera très léger pour nous pour l'année 2010, puisqu'on démarre juste. Mais au fil des ans, ça peut faire aussi suffisamment de rentrées qui permettront à quelqu'un du groupe de peut-être devenir salarié de l'association. Vous voyez, en Allemagne, il fonctionne, la monnaie la plus importante a commencé en 2003. Donc là, ils sont dans la 7e année. Et une des personnes qui a été d'ailleurs celui qui l'a vraiment créé, un professeur d'économie, il a démarré ça, il avait 33 ans, mais cette année, maintenant, il peut être salarié. Hein. Et pendant longtemps, il a travaillé comme bénévole, et comme il n'avait pas beaucoup de temps, il n'enseignait qu'à mi-temps ou quart de temps, enfin très 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 peu, et beaucoup beaucoup de bénévolat. Mmh. Et en fait, là, il peut maintenant se payer un salaire qui n'est pas royal.
Sans autre ressource que les 2% en question ?
Pas de subvention. Les 2%, parce qu'il y a donc la reconversion de la monnaie locale en euros, où là, on demande une commission de 2%, mais il y a également, comme l'a dit Christine, l'histoire de la monnaie fondante. Bon, là, je vais en parler. Et il y a aussi le fait qu'on demande, nous, aux consommateurs d'adhérer et les entreprises d'adhérer. Et en Allemagne, l'adhésion des entreprises est plus élevée que ce qu'on a fait. Nous, on a été très souple pour le début.
Très aimable.
On a fait une adhésion, aussi bien pour les consommateurs que les entreprises, à 12 euros. Ce qui est vraiment, je crois, très bas, quoi. 12 euros pour l'année. Parce que c'est pour mettre en place, après on verra.
Je préfère ça à des privilèges plutôt que pour les commerçants.
Pardon ?
Je préfère ce genre de choses plutôt que des privilèges accordés aux commerçants qui ne sont pas accordés aux particuliers.
C'est la même chose, mais
des
c'est
privilèges.
Mieux
Comment ça, les privilèges ?
Ben, par exemple, qu'un commerçant ne verrait pas son argent fondre. Alors que
alors, particulier, oui, oui, mais c'est quand même aussi important qu'il y ait cette commission. En Allemagne, elle est de 5%. Hein, quand ils reconvertissent leurs euros en monnaie locale, 5% hein, dans certaines monnaies locales. Nous, on a mis 2% pour implanter le système. Pour le moment, ça marche très bien, on va voir. Et alors, l'histoire de la monnaie fondante, là, pareil, on est plus souple. Nous, on l'a faite fondante 2 fois par an. La monnaie sur laquelle on a pris exemple en Allemagne, c'est 4 fois par an. Donc, tous les trimestres. Et alors, pourquoi une monnaie fondante, qu'on appelle aussi monnaie franche? Alors, les monnaies fondantes, ça a toujours en fait... C'est tout ce qu'il a dit, que ça avait toujours existé. Non, qui c'est qu'il a dit?
Non.
Non, les monnaies fondantes ont toujours existé, en ce sens que, je crois que c'est là-dedans qu'ils en parlent, au Moyen-Âge, les seigneurs émettaient une monnaie
tout à fait,
locale
c'est oui.
qui complétait la monnaie nationale. Et quand le seigneur mourait, cette monnaie locale pouvait perdre jusqu'à 30% de sa valeur.
Il était revenu à zéro.
30%. Alors, ce qui fait que les gens, qui avaient un peu d'argent, ils ne le gardaient pas, ils investissaient dans la pierre.
Ils étaient
malades. Et les monnaies locales, une monnaie locale dont on a l'exemple, c'est celle dans la petite ville en 1933, en Autriche, donc après la grande crise de 1929. Il y a eu une petite ville autrichienne, Wörgl, dont le maire a décidé... Oui, il faut dire que sa ville tombait complètement... complètement vie. Le chômage avait augmenté de 30%. Et donc, le maire, comme d'autres personnes, se disait, mais où on va? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pour ça que ce sera intéressant de voir quand est-ce que cette monnaie de Cadillac, elle a été émise. Et le maire de Wörgl a décidé de faire imprimer 32 000 coupons pour l'équivalent de 32 000 livres sterling autrichiennes. Il a donc... mis en réserve, puisqu'il faut toujours qu'il y ait autant de réserves que, surtout au début, que de monnaie qui circule. Et il en a commencé à en mettre en circulation. Il a eu besoin d'en mettre en circulation que 12 000. Parce qu'il l'avait fait fondante tous les mois. Tous les mois, elle perdait 1%. Alors, comme elle perdait 1%, elle a circulé 13 fois plus vite que la monnaie nationale. Et en un an et demi... de chômage dans la ville au bout d'un an et demi. Et ils avaient réussi même à, grâce à tout ça, toute cette revie, on peut dire, ce renouveau de vie, ils avaient réussi à construire des ports, à faire des routes, enfin, la vie reprenait dans cette petite ville. Hein. Voilà. Mais ça a trop bien marché, donc après, on lui a interdit de continuer. Il y a d'autres villes qui ont suivi son exemple, en Autriche et en Allemagne, et puis après, bon, interdiction. Voilà. Donc, on fait après plus de monnaie fondante, et puis les monnaies fondantes ont recommencé, enfin, sont réapparues, on va dire, en 2003, la première en Allemagne. Actuellement, il y a 38 monnaies qui fonctionnent en Allemagne, 38 monnaies locales, il y en a une vingtaine en formation, et sur les 38, je crois qu'il y en a plus de la moitié qui sont des monnaies fondantes, tous les trimestres. Voilà. Et en Angleterre, ils ont commencé en 2008, et entre 2008 et fin 2009, il y a eu 4 monnaies qui sont nées en Angleterre. Vous avez tout ça sur Internet, hein, ceux qui ont Internet. C'est très intéressant.
Souvent, le risque d'une monnaie fondante, c'est que ça pousse du coup à une certaine consommation, une surconsommation.
Très bien. Alors, ça ne va pas pousser à une surconsommation, ça va pousser à utiliser plus la monnaie locale et de moins en moins les euros. Mais quelqu'un qui gagne le SMIC ou même qui gagne 3000 euros, j'en sais rien, même quelqu'un qui gagne 3000 euros ne va pas en dépenser 5000. Mais au lieu de, si vous voulez, moi je le vois bien, là, depuis janvier, j'ai transformé, j'en suis rendu à plus de 400 euros en abeilles. Parce que comme je me nourris principalement bio, en plus sur le marché, directement sur le marché, ou chez la Biocamp, ensuite je vais chez la libraire qui est dans le réseau. Alors, les thérapeutes sont dans le réseau. Vous savez, quand on est 2 ou 3 dans la famille, et puis qu'il y a les petits-enfants qui arrivent ou quoi, voilà, quoi, vous voyez, on peut finalement... En fait, il faut aussi faire comprendre aux consommateurs qui entreront dans le réseau qu'il faut utiliser au maximum la monnaie locale.
Oui, c'est ce qui est...
Parce que plus vous utilisez la monnaie locale, plus aussi le fonds de garantie grossit. Et plus ce fonds de garantie, un de nos objectifs à nous, c'est d'en utiliser une partie dans l'avenir pour des prêts locaux, pour des projets éthiques.
Pour accorder des prêts.
Oui, pour accorder des prêts.
Voilà. D'accord, l'association peut être assez, peut avoir assez de fonds de roulement pour pouvoir faire de, penser à des prêts.
Oui,
mais c'est un moyen terme. Ça me rappelle...
Des microcrédits.
Pardon ?
Des microcrédits,
oui.
Ça me rappelle la banque Vire en Suisse qui a commencé comme ça. C'est une association de commerçants. C'était après, c'était en 1936 ou 1934, je ne me rappelle plus exactement. La banque Vire, c'est une banque qui a créé sa propre monnaie. Et elle marche encore avec sa propre monnaie. Elle a obtenu le statut bancaire, donc les monnaies alternatives, ce n'est pas des monnaies de monopoly, ça peut être, ça peut aller très très loin. Et la réputation de cette banque dit qu'elle équilibre l'économie suisse, parce que quand l'économie va bien, la banque baisse un peu, et quand l'économie va mal, la banque monte. Ce qui fait que l'économie suisse est, serait stabilisée par une banque faite de monnaies alternatives, qui a plus de 60 000 entrepreneurs comme clientèle, sans compter le simple chaland. Donc c'est quand même quelque chose, ça peut aller très très loin. C'est quelque chose qui peut être très important.
Et ce que dit Bernard Létard, là, Bernard Létard, qui est donc l'auteur de ce livre, il est belge, il a été pendant 30 ans directeur de la Banque Centrale de Belgique, et il a aidé pas mal, pas mal d'entreprises, d'État, au niveau de la monnaie. Et donc, bon, il est cogité pendant ce temps autre chose que le système pour lequel il travaillait, et c'est pour revenir sur ce que tu disais. Il dit qu'on sera obligé, si on veut qu'on s'en sortir en Europe, d'arriver à une Europe des régions, avec des monnaies locales, des monnaies régionales. On sera obligé. Là, on est en train, comme vous l'avez vu, tout le monde, tous les gens qui sont là, je pense, le réalisent, on est en train de, notre économie est en train de sombrer complètement. Alors pourquoi aussi ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'ensemble de l'argent qui circule sur la planète, est-ce que vous savez quel est le pourcentage qui est consacré à ce qu'on appelle vraiment l'économie marchande ?
2%, 3%,
5%. 5%. 5% de tout l'argent qui circule sur la planète est utilisé pour l'économie marchande, se nourrir, s'habiller, se loger, se soigner, éduquer les enfants. Je trouve ça. Tout le reste, c'est de l'argent qui dort, c'est la spéculation, les flux boursiers, etc.
Et la monnaie scripturale, la terrible monnaie scripturale.
Qu'est-ce que c'est ?
La monnaie scripturale, c'est simplement un jeu d'écriture, avec un passif, un actif. Quand je vous ai dit tout à l'heure que les États avaient perdu leur droit de création monétaire, qu'ils l'avaient donné aux banques privées, et la banque privée crée l'argent, j'ai dit fictif une fois, mais bon, il ne faut pas le dire.
Virtuellement.
Crée l'argent scriptural simplement par le jeu des
crédits.
Chaque
fois vous demandez un
crédit. Vous demandez un crédit, il crée l'argent correspondant. Voilà. C'est une vous remboursez le crédit, l'argent disparaît. Comme une sorte
mais
de
eux,
bulle dans une casserole de mélasse, vous avez une bulle qui pète comme ça. Et par contre, les intérêts ne disparaissent pas. Comprenez si pour nous.
Moi, c'est ça ma question sur votre système, c'est la question des intérêts. Parce qu'avec une commission, dans ce cas-là, vous rentrez dans la description d'une structure qui fournit du crédit. Et à partir du moment où vous créez ou vous fournissez du crédit, dans ce cas-là, c'est là que vous pouvez entrer sous l'application de la loi. Et l'État peut dire non, quand vous commencez à avoir trop de succès, dire non, il faut vous respecter la réglementation des banques, des compagnies qui créent du crédit, etc. Vous devez avoir des réserves officielles, etc. Vous voyez, le fait d'exiger une commission aux entreprises, c'est cet élément-là qui vous fait rentrer sous le jeu des lois de crédit. Parce que le crédit, c'est ça qui est réglementé par la loi. La création d'argent, ce n'est pas réglementé par la loi. Mais le crédit est réglementé par la loi. Et moi, ma question, elle est sur ce point, je ne sais pas si lui l'adresse dans son livre, comment est-ce que les argents locaux répondent à ce... Parce que comme vous l'avez dit, un exemple que vous avez donné, ce village qui a très bien fonctionné avec son crédit à tous les mois, en fin de compte, l'État il peut très bien calculer, voir qu'en fin de compte, c'est exactement comme une carte de crédit. Avec une carte de crédit, quand vous ne remboursez pas votre carte de crédit, on vous charge des intérêts. Les intérêts peuvent être calculables, ils sont calculables annuellement, mais en fin de compte, ils sont exigés mensuellement. Mm-hmm. C'est le même critère. Et c'est ça que réglemente l'État. L'État réglemente le crédit, il ne réglemente pas la monnaie.
Non, l'État réglemente le crédit, les crédits qui sont octroyés. C'est très différent. Mais par exemple, quand par exemple nous, à moyen terme ou à long terme, on pourra octroyer des prêts, donc des crédits à quelqu'un, obligatoirement, ce sera parce qu'on travaillera avec une banque. Et on espère bien que ce sera la Banque éthique européenne, puisque là, elle sera en place à ce moment-là. On n'a pas le droit, nous, de, en tant qu'association, d'octroyer des prêts à quelqu'un.
Non, mais un frais peut être considéré un crédit quand la personne a 2 euros et veut les échanger pour 2 abeilles ou vice-versa, mais elle a seulement 80% de sa valeur. Que ce soit appelé un frais, que ce soit appelé un crédit, c'est la même notion. Moi, c'est ma question.
Oui, je ne pense pas, parce qu'on fait, si vous voulez...
Est-ce qu'il en parle, lui, dans son livre, cette question des crédits? C'est quelque chose que moi, je regarderai de mon côté. Parce que je sais qu'au Canada, j'avais regardé à ça, et puis c'était le problème.
En fait, c'est pas... pour les monnaies locales, là, moi je me fixe sur les monnaies locales allemandes, c'est pas du tout considéré comme un crédit. C'est considéré comme, si vous voulez, un pourcentage, même la monnaie fondante, qui revient... mais qui sert à faire tourner la machine.
Les frais de gestion.
Parce qu'obligatoirement, il y a quand même des frais. Mmh. On est tous bénévoles, là, on sera bénévoles certainement pendant encore très longtemps. Mais
une carte de compagnie, carte de crédit, vous dit la même chose. Elle facture un crédit parce que nous, c'est ses frais.
Oui, mais nous, il n'y aura personne qui va avoir... si vous voulez, la banque, elle... comment dire, on sait bien que les banques se sont enrichies grâce aux taux d'intérêt avec lesquels elles ont prêté l'argent. Et qu'elles ont prêté en plus l'argent qu'elles n'ont pas.
Oui, mais c'est pas ça la question.
De toute façon, si ça prend vraiment de l'ampleur, à terme, c'est un rapport de force.
Ouais.
De toute façon, ça sera un rapport de force. Ça veut dire que si, à un moment donné, l'État sort, on le voit bien pour la NEF, la NEF n'a pas le statut bancaire depuis des années, mais c'est pas un hasard. Ça n'intéresse pas trop l'État. Donc, il freine. Donc, si l'État, à un moment donné, sent qu'il perd pied, et l'État et le monde de la finance perd pied, et que là, pour le coup, il risque effectivement d'y perdre et que la spéculation ne se fait plus, il y aura forcément un arrêt d'une façon ou d'une autre. Si, par contre, l'État s'aperçoit que, à travers ce système-là, ça a résorbé du chômage, si on accepte que le chômage se résorbe, c'est encore autre chose, et qu'il y a des économies qui vivent, voilà, c'est un rapport de force, de toute façon. Ce dont vous parlez actuellement, les lois qui régissent le crédit, les banques, les emprunts, tout ça, c'est des lois dictées par les hommes. C'est des lois qui peuvent se faire et se défaire. Donc ça sera uniquement dans une question de rapport de force. Alors effectivement, il y aura blocage forcément à un moment donné. On le voit bien avec l'histoire de l'Autriche, après la guerre, la monnaie, parce que l'État ça s'est rendu très bien compte qu'il allait y perdre.
Moi, je peux peut-être vous parler de ce qui s'est passé, puisque je viens de finir de lire le livre Viva Favelas, ce qui s'est passé au Brésil. Où des gens qui habitaient en bordure de mer à Fortaleza, dans un village, enfin peut-être une grande ville même, et ils habitaient dans des bidonvilles, ils ont été déplacés pour être mis à 20 km à l'intérieur des terres et pour vivre sur des déchets, enfin les déchets de la ville. Et donc ils se sont retrouvés aussi à construire des bidonvilles, mais aussi en hiver, quand c'était la saison des pluies, ils étaient inondés, ils étaient dans des états, et en plus ils étaient pauvres. Donc là aussi, ils se sont posé la question de savoir pourquoi ils étaient pauvres. Ils se sont aperçus qu'en fait, ils étaient pauvres parce que l'argent, bien qu'allant travailler à Fortaleza et revenant, parce que c'était dans des conditions très difficiles, l'argent qu'ils recevaient, ils repartaient obligatoirement pour acheter de l'essence, pour acheter du gaz, pour acheter... Et donc, ils n'en avaient pas, ça ne réirriguait pas tous les gens qui auraient pu en profiter. Donc, la personne qui parle de ça, enfin, qui a écrit le livre, qui s'appelle Joachim Mello, d'abord, ils ont travaillé pour faire en sorte d'apporter l'eau courante, se faire reconnaître de l'État, parce que c'était au moment de la dictature, donc il n'y avait personne qui pouvait ils n'étaient pas entendus, on leur disait oui, mais il n'y avait personne qui venait. Donc, ils ont fait des luttes, manifestations, etc. Ensuite, ils ont pu obtenir l'arrivée d'eau, l'arrivée de grands tuyaux de boyaux pour évacuer les eaux usées, de l'électricité. Et puis, ce monsieur a eu l'idée de créer une banque. Alors, c'était pour faire des microcrédits, parce que c'était le début des microcrédits au Bangladesh. Et donc, ils trouvaient l'idée intéressante. Donc, ils ont fait ça, ils ont créé une banque. Enfin, ils ont créé une banque éthique solidaire. Ils ont fait des microcrédits, mais ils se sont aperçus aussi que les gens... Il manquait cruellement d'argent. Alors c'était bon, ils pouvaient créer de la monnaie à la production, enfin de la monnaie, des crédits à la production ou des crédits à la consommation en fonction des demandes. mais aussi ils se sont dit qu'il fallait créer une monnaie complémentaire. Et donc il a eu l'idée de faire ça. Et alors il a eu, c'est aussi l'arrivée de Lula qui a changé aussi les choses, parce que Lula a compris que ben, c'était un projet qui... Ils faisaient au début, ils étaient sur un carton comme ça, ils marquaient l'argent à qui ils avaient prêté, et puis l'argent qui rentrait, et c'était extrêmement, quoi. C'était pas de logiciel, ils n'avaient pas d'ordinateur et tout ça. Donc, et puis petit à petit, ça s'est fait, ça s'est mis en place. Ils ont été soutenus par une autre banque solidaire. Ils ont mis en place 46 banques comme ça dans tout le pays, parce que la pauvreté, du coup, ils se sont aperçus que ben, la pauvreté, elle pouvait... ils ont créé aussi des... Du coup, il y a des gens qui pouvaient créer des couturières qui se mettaient ensemble pour faire des choses. Et puis les gens, comme tu dis, ça recrée aussi l'activité. Donc, quand la monnaie s'échange, eh ben, l'économie s'en ressent aussi. Et donc, ils sont devenus moins pauvres, ils ont pu construire des maisons en plus dures, etc. Et donc là, c'est viable, enfin, c'était tout à fait viable, cette histoire de monnaie. Et ça a été reconnu, c'est pas du tout... Ça dépend aussi de la politique, des volontés, de la volonté politique.
Oui, c'est-à-dire que le Brésil est un pays qui est quand même relativement à gauche, nous, pas vraiment.
Maintenant. Mais bon, les différences entre la gauche et la droite, maintenant, ici, on ne sait pas.
Non, mais je crois que tant que
la gauche et la droite.
Tant que ça ne gêne pas les grandes fortunes de ce monde, ça ne posera pas de problème. Après, il y aura un problème de force.
Il faut peut-être aussi se dire, parce que ce que vous dites là, c'est exactement ce qui se disait pour les sels il y a 15 ans. Hein.
Disons, la coopérative scolaire,
oui.
La mairie,
on décide d'acheter des abeilles.
Et on peut donner tant d'abeilles aux jeunes qui fait ça. J'ai un jeune qui vient faire 2 heures de guitare à l'école pour sensibiliser à la musique, et puis je ne sais pas quoi. Donc du coup, la commune peut acheter, même moi par exemple, je ne sais pas, en tant que responsable de notre association, je décide d'acheter tant d'abeilles et de donner tant d'abeilles à l'école pour qu'ils fassent venir des jeunes du village et ils touchent les abeilles-là.
Tout à fait. Et au contraire,
s'ils ne sont pas déclarés, je veux dire, même s'ils ne sont pas... Parce que vous savez, en fait, souvent, on ne fait pas venir
les
jeunes.
Attention, c'est considéré par le fisc comme de l'argent gagné.
Oui.
Hein.
C'est-à-dire que
c'est travail au noir.
Vous prenez un jeune, vous lui faites faire 2 heures de... Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez dit,
de musique, de soutien scolaire, n'importe.
Mettons, si vous le payez par abeille, vous allez le payer comment?
Mais pas du tout, il est bénévole en principe. C'est ça que je veux savoir.
Oui.
Est-ce qu'un bénévole, par exemple, qui donne régulièrement des heures, est-ce que lui, on a le droit de lui donner des abeilles?
Lui offrir.
Ah oui, je dis bien lui offrir.
Bien sûr.
Ou c'est considéré comme du travail au noir?
C'est-à-dire qu'il y a la fameuse monnaie Robin, à un moment donné, je ne sais pas d'ailleurs où elle en est.
C'est pas du travail au noir, là, puisque normalement, vous ne lui donnez rien.
En principe, je ne lui donne rien. Disons c'est un jeune qui vient bénévolement toutes les semaines, mais pour valoriser quand même le fait qu'ils viennent, lui donne son temps à un moment donné, il donne 2 heures, pourquoi il n'aurait pas le droit de s'acheter, par exemple, 2 heures du travail du boulanger avec les abeilles. Vous voyez, en fait, c'est un truc indirect.
Oui, mais à partir du moment où votre association va déclarer dans son...
Il n'y a pas d'association.
Ah, vous parliez d'association.
Non, j'ai dit si c'était la mairie qui avait acheté les abeilles pour donner aux mairies, on a le droit.
D'ailleurs, nous, on est en pourparlers avec la mairie de Villeneuve, mais ils ne savent pas comment. Bon, on ne sait pas encore comment ça va se faire et tout, mais on est en pourparlers. On travaille ça, disons, peut-être qu'on y arrivera dans quelques mois, dans 3 ans, on ne sait pas du tout, pour que la municipalité achète des abeilles et s'en serve pour les rémunérer ou les donner à telle ou telle personne, bien sûr. Et ça, à ce moment-là, c'est très intéressant quand on arrivera à ça, parce que ça oriente les achats. Et ça veut dire que cet argent, il va là, il va chez le boulanger du coin. La personne qui aura cet argent-là n'ira pas acheter son pain à Leclerc, Auchan, Intermarché, tout ça, comme ça. Tout cet argent, comme l'a dit Françoise, une fois que vous faites vos courses à Auchan, tout ça, votre argent, il part. Il repart dans la spéculation.
Il peut même être utilisé... Que pose, la dame, ça revient plutôt à une autre forme de monnaie, c'est les billets un peu qu'on échange. J'échange des heures contre des heures.
Voilà, c'est ça.
Ça c'est une autre sorte de monnaie. On ne peut pas utiliser l'argent, par exemple, des abeilles pour valoriser un travail bénévole. On ne peut pas faire ça. Sinon, ça va être des conseils de travail.
C'est un travail noir. Okay. Oui.
Mais ce qu'on fait, par exemple, c'est un système parallèle où on peut donner un billet, qui est une autre forme de billet, qui est un billet qui équivaut une heure de travail, équivaut une unité. Et ces unités sont changées, mais ces unités-là ne sont pas transférables. On ne peut pas les échanger contre de l'argent. On ne peut pas les échanger contre de la paix. Mais comme moi, par exemple, je rends service à quelqu'un, je vais faire de la peinture chez cette personne-là, ça me prend 5 heures. La personne me donne mes 5 unités.
C'est
un peu le principe du
sel.
Voilà.
Ça
existe, mais c'est complémentaire. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas utiliser l'argent, par exemple, d'abeilles, pour compenser ce système-là. Ce n'est pas la même chose.
Alors, il existe
ça peut être parallèle, ça peut être complémentaire, mais ça, on ne peut pas utiliser l'un pour l'autre.
Non,
il est...
De toute façon, vous fonctionnez dans un sel, en même temps vous utilisez des abeilles, enfin par ailleurs, donc c'est complémentaire, comme il dit, ça ne se mélange pas, manifestement.
Deux systèmes hybrides.
Donc ça ne se mélange pas.
Donc vous voulez dire qu'un jeune qui vient faire des heures scolaires à la fin de l'école, c'est un exemple, je veux dire, c'est l'idée que j'ai eue, la mairie ne peut pas lui donner 3 abeilles parce qu'il vient régulièrement à l'école le soir.
Non, elle ne peut pas lui donner en direct 3 abeilles parce que c'est un salaire. La mairie, elle doit déclarer l'argent qu'elle achète et elle doit déclarer où va l'argent.
Oui, donc, alors si ce n'est pas la mairie, alors par exemple...
Mais ce que la mairie pourrait y donner, c'est une autre forme de monnaie qui est un coupon qui équivaut en heures. C'est pas de la monnaie, c'est un coupon d'heures. C'est-à-dire, c'est un troc d'heures, une heure de travail contre une heure de travail.
Mais alors, c'est encore une monnaie, alors.
Mais c'est un troc, c'est pas les abeilles, c'est pas la monnaie, parce que ça a une valeur.
Les abeilles, regardez, je vais vous le faire circuler, il y a marqué coupon, machin. Coupon.
Non, moi, ça m'intéresse de savoir, parce que ça change tout, en fait. Si vous pouvez, oui ou non, valoriser à un moment donné le travail des uns et des autres, et non pas que faire l'achat, en fait, c'est complètement différent, en fait. Ça permet aux gens de pouvoir s'engager à un moment donné pendant la semaine auprès des autres, en sachant que eux, ils retrouveront 2 heures de travail du boulanger.
Mais ça, c'est un service.
C'est ça, c'est un service.
Si on oublie la mairie, par exemple,
oui, c'est pas la mairie.
Un jeune vient donner des cours à mon fils, et est-ce que je peux le payer en abeille?
Voilà,
est-ce que vous le payez d'habitude?
Non.
Non.
Vous pouvez lui donner de l'argent de poche. Je veux dire, quand vous donnez de l'argent de poche à vos enfants, c'est toléré quand même par. Ça vous est pas obligé de le déclarer.
Il n'est pas d'habitude. Voilà. C'est pas un salaire.
Non, c'est pas un salaire.
Oui, très bien, moi, je pense. Je vais le noter pour demander aux Allemands et tout ça, parce que je vais le voir bientôt. Mais c'est comme si vous lui faisiez
un cadeau.
Parce que ce sont les contrats d'achat.
Le concept des cadeaux, c'est vachement compliqué. Et puis en plus, en France, le cadeau, il est taxable. C'est 60% d'impôt sur un cadeau.
Mais oui, absolument. Bien sûr. Mais bien sûr.
Donc, il ne faut pas rentrer dans ces jeux-là, c'est vachement compliqué.
Moi, ça m'intéresse de savoir. Parce que, par exemple, moi, en tant que particulier, je me dis, mais voilà, c'est vrai que c'est très embêtant qu'il y ait plein d'enfants qui n'aient pas la possibilité d'étudier le soir. Moi, les miens, ils sont chouchoutés à la maison, je leur fais faire les devoirs et tout. Tiens, en tant que bonne citoyenne, j'aimerais que l'école ait quelqu'un qui vienne le soir aider les autres enfants. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Et puis, j'ai pas le temps de le faire, donc j'aimerais néanmoins que quelqu'un y aille. Et bien, je dis, moi-même, j'achète mes abeilles, et le jeune qui viendra, je ne le connais pas, rien du tout. Chaque fois, je donnerai 10 abeilles à ce jeune tous les soirs. Ben, j'ai décidé que chaque semaine, je peux dépenser 60 abeilles sans aucun problème.
Vous le payez en noir.
Travailler en noir.
Non, mais c'est ça. Donc,
alors, est-ce que je peux vous dire quelque chose?
Vas-y.
Je ne sais pas si ça existe encore, mais à un moment donné, il y avait quelque chose qui s'appelait la monnaie Robin. Et son concepteur avait, donc c'était une monnaie complémentaire comme les autres, mais son concepteur avait eu l'idée de valoriser le bénévolat, c'est-à-dire que le bénévole recevait une monnaie Robin au lieu de ne rien recevoir en échange de son bénévolat.
Voilà.
Le fisc lui a répondu que c'était équivalent à un salaire et qu'il devait être déclaré.
Absolument.
Voilà. Donc ils ont eux-mêmes fait un système ils ont retenu l'argent sur cet argent qu'ils donnaient, ils ont retenu les charges. Mais le fisc a refusé d'être payé en monnaie Robin. Donc,
non.
Donc faites un travail au noir si vous payez directement quelqu'un avec la monnaie abeille.
Sauf si
vous deviez le payer. Si vous deviez le payer en
euros, là c'est autre chose. Non, mais on entend bien.
Une abeille,
qu'est-ce qui va déclarer alors? Si par hasard, voilà, ce sinon, monsieur, alors je le paie, ce jeune-là de l'école encore, et en disant qu'il serait payé 10 € tous les soirs. Maintenant, je décide de lui donner 10 abeilles. Mais qu'est-ce qu'il va déclarer alors? Il va déclarer qu'il a touché 800 abeilles en fait
d'argent. Non, des euros. Lui, il va déclarer des euros. Il va déclarer des euros à.
Oui. Mais il n'a pas le droit de reconvertir.
Oui, mais non, non, c'est assimilé à l'euro.
C'est assimilé à l'euro, donc c'est équivalent. Il n'y a pas un change différent.
Ce sont des jeunes qui ont quel âge, mettons?
Ah, je ne sais pas, moi, 20 ans, les jeunes, souvent, qui
alors, ont alors, en plus, même s'ils déclarent 800 euros...
Mais ça peut être quelqu'un au RMI ou au RSA, oui. quand même, oui. vous voyez, qui est en difficulté. Oui. Et vous dites, tiens, c'est quand même une bonne opportunité
oui, tout à fait.
Que de, sans lui donner de l'argent comme ça...
Je crois jusqu'à un certain montant, ils peuvent travailler, mais sans être...
Oui,
sans
ça sera bien. Mais il faut quand même qu'il le déclare.
Il doit le déclarer, surtout s'il est dans un système non, tel que le RSA, etc. Ça va être drastique.
Les non-imposables.
Mais il, voilà. mais il faut le déclarer. Mais
ce que
mais
vous c'est mentionnez, assez... c'est plutôt un système de troc d'heures oui. contre des
heures. Donc c'est le sel, on
ouais,
se
ouais,
met
ouais,
au sel.
Ouais, ouais, ouais.
Ça peut être, sel, ça peut
en
être
fait,
un billet.
Ils ont vraiment mis ces unités qui n'ont pas du tout qui n'ont aucune connotation ni avec l'euro ni quoi que ce soit.
Moi, je crois que dans votre association, chose, par contre, vous pouvez très bien décider, en plus d'avoir la monnaie unitaire, d'avoir une monnaie parallèle à côté. Qui n'a aucune valeur, en fait, c'est une monnaie temps. Et c'est une unité égale une heure de temps. Et ça, ça permet d'avoir les deux systèmes. Et c'est-à-dire, et en plus, ça permet de faire des échanges pour des gens qui n'ont pas d'argent.
Voilà,
ce que votre système n'empêche. Dans ce système, si quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'y a pas le 50 euros, il ne peut pas rentrer dans le système. Alors, avec le système complémentaire, si moi, je n'ai pas 50 euros, je peux aller auprès de l'association, j'ai mes 50 coupons, et avec ces 50 coupons-là, je peux les échanger contre des heures de travail. Quelqu'un qui vient travailler pour moi, cette personne-là, après ça, il a son argent, un argent temps, qu'il échange ailleurs. Et ça, c'est complémentaire. Et ça permet à des personnes de rentrer dans un système sans argent.
On a pensé aussi, un peu comme Villeneuve-sur-Lotte y a pensé, nous, vous savez qu'il y a des associations caritatives qui distribuent des coupons, des bons de repas, des bons...
De repas,
on a pensé voir s'ils pouvaient nous acheter de ces bons pour les redistribuer, pour que les gens, tout en ayant... donc des bons pour échanger contre la nourriture, des vêtements, puissent le faire de façon plus écologique, qu'ils aient un peu plus accès à ça. On a pensé, on ne sait pas s'ils vont accepter.
Ouais.
On a un peu le projet de faire ça.
Ce qui est dérangeant sur ça, c'est que si vous l'éclatez à un certain nombre d'heures, une importance horaire dans la semaine, c'est que vous mettez les gens dans une précarité immense. C'est-à-dire que cette personne cotise à nul organisme pour sa retraite, pour... c'est ce qui me gêne, moi, dire. Pour ton histoire de payer le gamin une heure ou deux, on ne voit pas. Mais imaginez qu'à un moment, ça devienne un mi-temps.
Ah oui, non.
Il cotise à aucun organisme social,
ah
aucun
oui,
organisme
non,
de retraite. Vous maintenez les gens dans la précarité. Alors, d'un système qui se veut élever le niveau, là, pour le coup, on devient vraiment...
Ouais, oui, mais oui, oui.
Donc, je crois qu'il faut faire attention.
Oui. Pas à contrario de...
Oui, tout
à
fait.
Non.
On peut être prudent sur...
Là où ça peut être intéressant, c'est qu'effectivement, je ne sais pas, moi, je réfléchis en même temps, hein. C'est moi j'embauche quelqu'un pour venir travailler chez moi pour m'aider à construire ma maison, je lui paye un salaire, je sais pas, hein, en abeille ou.
En partie.
Voilà, ou en partie, peu importe. Et qu'après, bah, lui, il paye ses impôts à travers une. À travers de l'euro, et il cotise à tous les organismes. Là, bon, il n'y a plus de problème. Mais cet échange de temps. Quand ça reste sur des heures de loisirs, des choses comme ça, ça me gêne pas trop. Mais quand ça devient important, ça me gêne complètement, parce qu'on maintient les gens dans une précarité, et puis on l'ignore, de toute façon. Donc, faire attention.
Bah, il ne faut pas que ça devienne le travail.
Non.
L'échange de temps ne doit pas être son métier, évidemment.
Après,
ça
peut
être garder sur les week-ends ou garder sur les...
Normalement, c'est
dans la démarche.
Pour accéder à des choses inaccessibles.
Dans la démarche de pensée de tout à l'heure, de dire... parce que le rapport de force, quand je le positionnais tout à l'heure, c'était d'un rapport de force... complètement positif, c'était de me dire à un moment donné, ça serait très bien que ça bascule et qu'on abolisse la monnaie spéculative. Et là, à partir de ce moment-là, on peut tout. Non, mais je veux dire, quand je pars du principe que les lois sur lesquelles on est régi, c'est les hommes qui les ont créées, on peut aussi les défaire. C'est-à-dire qu'on peut, on peut créer tous les systèmes. D'ailleurs, on peut recréer nos systèmes de sécurité sociale, on peut tout recréer. Bon, on ne va pas extrapoler, mais je veux dire, à partir d'une chose qu'on aura bâtie. Et qui paraît, et qui peut nous paraître, et qui paraît pour l'ensemble de la population équitable, on peut derrière créer bien d'autres choses. Voilà.
Mais vous savez qu'à Ithaca, c'est pas très loin de New York, Alors, il fonctionne en monnaie comme ça, heure, ou depuis 15 ans, ou je ne sais pas combien, et maintenant, ils ont vraiment aussi créé leur système de sécurité sociale. Voilà.
Moi, c'est bien dans cette optique-là que je le
vois. C'est refaire toute la société, finalement. C'est refaire le monde.
Moi, l'idée de cette monnaie locale, enfin, bon, là, c'est démarrer l'ancienne économie locale, mais moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est le discours qu'on a eu un peu avec François, quand on avait parlé, c'est qu'à un moment donné, moi, ce qui m'intéressait, c'est que ça bascule. C'est-à-dire que les gens s'y retrouvent tellement que... Attends, mais il faut rêver. C'est que ça bascule de l'autre côté.
Mais alors, qu'est-ce que vous répondez quand je vous dis cette monnaie n'aide pas les personnes en difficulté? Vous devez bien avoir une... Vous allez me dire, oui, ça aide, mais je n'ai pas encore bien vu. Moi, je n'ai pas la vision globale, donc je ne vois pas en quoi cette monnaie va aider les personnes en difficulté. Ce n'est peut-être pas son objectif, vous allez me dire.
Alors, elle peut aider les personnes en difficulté, mais pas à court terme. Mais comme voilà, on l'a expliqué, Françoise, pour le Brésil, ou comme j'ai expliqué pour la monnaie autrichienne, dans la mesure où si on recrée une dynamique locale, ça va recréer normalement des emplois.
Oui.
Mais pas à court terme.
Alors, vous avez insisté sur le fait que votre abeille, dessus, c'est écrit « coupon d'achat ». Oui. Vous voulez dire quelque chose de particulier par rapport à ça, pour bien distinguer d'une monnaie?
Oui, parce que justement, déjà, on n'a pas le droit de créer la monnaie. Hein. Nous, on l'achète. On l'achète tout comme les entreprises achètent les chèques déjeuner. Ou les magasins distribuent des bons d'achat. Vous voyez?
C'est aussi une monnaie alternative, d'ailleurs.
Comment ça marche
Oui, alors là, on l'a fait fondante, nous, deux fois par an, hein. Parce que ça a été décidé en Assemblée Générale extraordinaire.
Comment les gens, à partir de quel moment les gens disent qu'il faut pas acheter, c'est eux-mêmes qui...
Et bien, c'est-à-dire qu'ils sont tenus au courant, hein, parce qu'on communique énormément avec les adhérents, avec les entreprises, par Internet, par courrier postal s'il le faut, hein, où on va les entreprises, on va les voir chez elles, tout ça. Et les gens savaient qu'ils devaient, que la monnaie était fondante début avril. C'est-à-dire que début avril, il fallait qu'ils collent, qu'ils achètent des petites vignettes représentant 2% de la valeur de leur billet et qu'ils les collent au dos. Et donc, ça s'est passé la semaine dernière, hein, cette opération, on peut dire, vous voyez, ça a continué encore hier, ça a continué ce matin au marché, on continue quelques jours, et voilà, et on vend les petites, en quelque sorte, les gens paient pour coller ces petites vignettes. Ce qui veut dire que si le billet n'a pas la petite vignette, par exemple, on a un commerçant qui a dit à une cliente, « Ah, mais vos billets, là, ils ne sont plus valables. Il faut aller les réactualiser. » Et ça, c'est pour obliger, comme je l'ai dit tout à l'heure, à ce que cette monnaie circule, qu'elle ne reste pas au fond d'un tiroir, ou dans le portefeuille. Parce que plus ça va circuler, on peut éventuellement faire un petit jeu qui montrera que plus ça circule, plus tout le monde est gagnant. Il faut absolument que la monnaie circule.
Et le coût de production des billets par rapport au montant d'argent en circulation, ça représente quoi? 1%, sur 1000 euros,
je ne vais peut-être pas le dire comme ça. Je ne vais peut-être pas le dire comme ça parce que je ne peux pas faire le calcul là. Mais je peux dire que les billets, pour le moment, entre le 1, le 2, le 5 et le 10, qu'on a fait imprimer, on en a fait imprimer pour une valeur de presque 10 000 euros. 10 000 abeilles, 10 000 euros. Hein? Après, pour l'impression, puis différentes choses, des protections qu'on a mis, tout ça. Bon, les billets nous
les
ont
coûté... Les protections, c'est-à-dire?
Oui.
Mais pas la fausse monnaie.
Voilà. Les billets nous ont coûté, si je ne me trompe pas, 400 et quelques euros.
Il y a un autre coût derrière tout ça, c'est la gestion de ces billets. Ils ont un numéro, j'imagine. Vous faites une comptabilité derrière tout ça, c'est un coût aussi. C'est le travail banquier, si je puis dire. Hein? C'est un travail banquier.
C'est nous, on fait un travail... moi, je dois dire qu'on est, comme je disais à Françoise, hein, on est actuellement... On est une équipe, on va dire, on est un groupe de 7, 8, ça dépend des fois, non. Mais on est réellement à y travailler, à ça, l'histoire de la monnaie, on va dire 4. Avec quelqu'un qui n'est pas souvent là. Une autre, elle ne fait que la comptabilité parce que de l'association et des billets, tout ça. Et un autre, il fait la communication et moi, je fais tout le travail informatique. Et la communication, bien sûr, enfin, plein de choses. Quoi.
Pourquoi simplement éditer pour 2 ans?
Alors, pourquoi on les a fait pour 2 ans? Alors voilà, parce qu'on a, nous, on voulait les faire que pour 1 an. On a exemple toujours sur nos amis allemands qu'on a rencontrés, que j'ai connus à Nanterre au mois de décembre, en même temps d'ailleurs que le séminariste Joachim Mello, Bernard Liétard, tous ces gens-là. Et entre 2003 et fin 2009, les Allemands, la monnaie la plus importante, le Timbrouwer, ils changeaient leurs billets tous les ans pour justement éviter la falsification, tout ça. Bon. Et puis ils se sont rendus compte finalement que ces billets n'étaient pas faciles à falsifier. Ce n'est pas très intéressant parce que c'est très local et que quelqu'un qui veut falsifier des billets, il a plus intérêt à falsifier les euros qu'il peut utiliser partout et sur lesquels il n'aura pas besoin d'apposer une vignette tous les trois mois.
Pourquoi chercher véritablement à les rendre infalsifiables? Parce que là, ça repose aussi sur le manque de confiance.
Alors, vous allez voir quand vous allez informer les gens. Et vous allez avoir des gens qui vont vous dire « Oui, mais ces billets-là, ils sont falsifiables.
Ah, » oui,
c'est leur, c'est l'inquiétude. Voilà. Vous allez avoir des consommateurs, c'est leur inquiétude. Et ils n'en sortent pas.
Les commerçants aussi. Les gens qui vont acheter ces billets, voilà. C'est une partie d'un réseau, on les connaît.
Voilà,
c'est
des exactement. Gens, c'est voilà. Pas des alors, gens vous, qui vous sont pourrez dans les rassurer.
Système-là, quoi.
Exactement. Donc, vous allez en avoir certains. Alors, leur inquiétude, c'est que c'est probablement falsifiable. D'autres, ça ne va jamais marcher. D'autres, vous comprenez. Alors, pour ceux pour lesquels l'inquiétude, c'est que ce soit falsifiable, il faut que vous puissiez les rendre infalsifiables et les rassurer.
Mais ceux qui disent ça ne va jamais marcher.
Ah ben, ceux-là, vous ne vous occupez pas d'eux.
Ah oui, mais
c'est comme ceux qui disent, c'est comme les agriculteurs, ou je ne sais pas, quelqu'un qui vous dit, oh, mais l'agriculture bio, ça ne marche pas. Ne vous en occupez pas. Qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut pas s'occuper de toute la planète.
Et pour reconvertir les billets tous les deux ans, donc les gens ramènent les billets, puis là, vous leur donnez...
Oui, c'est-à-dire que fin 2011, ou ce sera peut-être au moment de la...
À la fin d'étiquette, oui. Les dernières étiquettes, ces billets-là seront plus valides.
Voilà, okay. Voilà. Donc ce sera, attendez, alors on a mis.
Ils sont échangeables.
Ce sera fin 2020.
Ils sont pas échangeables.
Il faut les dépenser, quoi. Ouais.
Il faut les dépenser.
D'accord. Ouais.
Il faut dépenser oui, les abeilles et de moins en moins les
autres. Ils seront quelque part.
Mais les gens les ramèneront.
Ah, ils les ramèneront.
Oui, ils ramèneront pour échanger contre des billets.
Ah, on peut les échanger alors.
Oui.
Les commerçants seront collecteurs, peut-être aussi.
Non, parce que les...
Non,
enfin, c'est l'association qui collecte. Si les gens achètent, ils laisseront leurs billets chez les... Oui.
J'ai une question à poser à propos de motivation. Bon, vous avez parlé de politique, vous êtes une enseignante. Bon.
Oui,
vous êtes commerçante.
Oui.
Le bouquin dont vous parlez est signé par un type qui a travaillé dans les banques, préfacé par un type dont j'ose même pas dire le nom. et vous avez parlé, toi François, tu as parlé d'un séminariste. Alors, là, on a un curé de l'autre côté. C'est-à-dire à chaque fois des motivations qui sont...
Mais ma motivation, je suis peut-être commerçante, mais je suis commerçante bio. Ma motivation est tout à fait la même que la sienne. Donc, c'est vrai que c'est pas pour le commerce dans le sens commercial pur que je veux faire ça. C'est vrai aussi que je suis très très personnellement très en colère contre le système monétaire dans le monde, que je trouve absolument odieux, puis contre nature. Quand vous voyez que la Terre, c'est une boule d'abondance et qu'eux, ils ont fait une boule de rareté, mais c'est marché sur la tête.
Oui, mais comme consommateur, je suis échaudé et forcément, je me méfie d'un commerçant qui va me proposer une nouvelle monnaie. Je me méfie d'un ancien banquier qui me propose une nouvelle monnaie.
Je me méfie d'un séminariste.
Mais bien sûr que si, un commerçant de toute façon.
Est-ce que je peux vous en emprunter un? Vous en avez plusieurs, je vois. De petits...
La réponse que j'ai, je me dis, il faut travailler sur ses peurs.
Il faut accueillir ces vous avez fait un peu de repérage.
Faut qu'on voit donc d'abord combien il y aura de gens dans l'association, quelles seront les compétences de l'association, et là on peut faire plus vaste. C'est pas impossible.
Enfin, moi je vois pas trop le problème entre le très local. Et
la quantité de gens, parce que le temps, moi j'ai deux métiers.
Peut-être pas, parce qu'il se peut que si vous trouvez des personnes, des producteurs, des producteurs bio, et ceci, et cela, très motivés à 15 km de Cadillac.
Et oui, parce que les producteurs bio ne sont pas sûrs qu'ils sont à l'extérieur.
Ça fonctionnera sur Cadillac.
Parce que ça peut pas se limiter, très limité à Cadillac.
Oui, des consommateurs, bien entendu.
Moins trouver de gens sur Cadillac. Oui. Alors qu'on trouverait peut-être beaucoup plus de monde en élargissant le réseau.
Mais je suis d'accord, mais à condition d'être assez nombreux pour le faire.
Et ça prend des représentants dans chacune de ces localités.
Je suis d'accord, mais j'aimerais autant même que ça soit. D'ailleurs, moi, c'est ce que je pensais au départ. départ que ce serait beaucoup plus étendu.
La problématique, je crois, c'est surtout le temps à y consacrer.
Pourquoi tu dis ça? Et pourquoi tu dis ça alors qu'elle parle de géographie, justement? Elle parle de géographie, toi tu réponds, tu dis le problème, c'est pas la géographie, c'est le temps.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que je comprends complètement ce que vous dites, c'est que si vous êtes ici dans l'association, il y a 3-4 personnes, et que d'un seul coup, tu te retrouves avec 60 commerçants.
Non, mais
le temps, ça peut représenter.
C'est clair, il y a tout un réseau de gens qui fonctionnent.
D'accord, mais vous nous recevez, alors.
Eh bien, oui, il n'y a pas de problème, mais je sais pas, tous les gens, tout le public du petit bal de Villandreau, qui a eu le deuxième vendredi du mois, un petit bal trad, mais là, c'est un public énorme.
Vous élargissez jusqu'à Bazin,
Alors, ce qu'il faudrait peut-être refaire aussi, c'est la faire et avec la...
Il faut refaire la même réunion, dans un mois ou dans 15 jours, par exemple... À Villandreau, et je pense que là...
Ce qu'on pourrait faire, c'est passer le film, trouver une salle où vous pourriez passer le film, ou le début du film, La double face de la monnaie. Parce que là, vous aurez plus de monde. C'est un film qui commence à dater, hein, puisqu'il est de 2003 ou 2004, mais vous avez un passage justement sur la monnaie allemande, le Kimgoer, voyez. Et les gens vont voir comment ça fonctionne, ils vont voir du concret, ils vont voir quelque chose de sérieux.
Au niveau national,
elle est forte, agressive. Tu crois que c'est fait la France,
alors, au niveau national, que je vous explique la situation actuellement. Déjà au niveau européen, on a dit qu'en Suisse, il y a le VIR qui fonctionne depuis très longtemps. Les Allemands qui donc sont rendus à 38 monnaies plus 20 en formation. La plus importante, le Kimgoer, a démarré en 2003. À la fin de la première année, il y avait 60 entreprises. Fin 2009, 600 entreprises. Pour vous dire, ça fonctionne, les monnaies locales. Il y en a une autre là qui est importante, le Stern Thaler aussi, dont j'ai mis les billets. Ensuite, donc en Angleterre, 4. La première a démarré en 2008, Totnes. Suivi de Brixton, Stroud et les Wes. Et en France, donc nous, on a démarré, on va dire, fin 2009, il y a Paris, il y a Nanterre qui ont essayé de bien développer le sol. Mais comme nous, ils ont été confrontés à des problèmes, donc maintenant, ils veulent s'orienter vers une monnaie locale comme l'abeille. Ensuite, il y a Pézenas, l'Ardèche, avec une monnaie qui s'appellera les Lucioles. Vence, mais dans les Alpes-Maritimes. Oh, Chambéry.
C'est rien en Bretagne?
Attendez, Bretagne, il y a, mais je n'ai pas toutes les infos pour la Bretagne, mais il y a plusieurs projets en Bretagne. Il y a Annemasse, les Vosges.
Alors le sol, qu'est-ce que c'est cet échec?
Le sol, c'est une expérimentation de monnaie au niveau européen. Ça a démarré, je crois, en 2001, quelque chose comme ça. Alors là, ça a été avec des fonds européens et le même sol partout. C'est pas une monnaie locale qui vient de la base, en plus. Alors nous, on a essayé d'implanter le sol il y a 2 ans, à Villeneuve-sur-Lot, et on a été confrontés au problème que le sol ne fonctionne qu'avec des cartes à puce. Alors le sol, voilà comment ça fonctionne. C'est un peu comme Pézenas. Vous allez chez les commerçants, vous faites vos achats, vous mettez votre carte et vous êtes crédité de points sol. Voilà. Et vous utilisez votre carte.
Mais on paye en euros.
Oui, vous payez en euros, vous êtes crédité en points
sol.
Quelques points sol. C'est comme une petite remise.
C'est la remise, voilà. D'accord.
Et la remise est créditée sur la carte.
C'est comme les cartes de fidélité de supermarché.
Voilà, les cartes de fidélité.
Et après, vous utilisez votre carte sol chez les membres du réseau sol. Il y a une charte très stricte, c'est encore plus strict que les monnaies locales telles qu'on la consomme.
Et en dessous, comment ça marche en dessous de 1? Il n'y a pas...
Alors, voilà, bonne question. Mettons que vous allez chez Christine qui accepte les abeilles, ou chez Abazas, quelqu'un qui accepte les abeilles, et votre achat fait 13,50 €. Vous allez donner 13 abeilles et les 50 centimes euros.
Et le commerçant, il va s'y retrouver dans sa comptabilité?
Le commerçant, il rentre ça comme si c'était des euros.
Et oui, puisque...
C'est son fonds de caisse en espèces.
Les gens qui souhaitent plus d'informations envoient un mail à une adresse que je vais vous donner. Voilà. Parce que déjà, comme ça, ils pourront me contacter.
Si tu épelais l'adresse en question.
Monnaie.local chez Orange. Monnaie.local chez Orange au singulier. Monnaie au singulier. Point local chez Orange.
Vas-y, épelle-la carrément.
Monnaie.local, mais ils vont se demander où
les gens. Ou même monnaie local.
Monnaie.local, bon alors j'ai rien dit. On est pas sans quoi. Monnaie.local, c'est pas le cas.